avec la fanfare, les ogres, depuis 20 ans, à peu près depuis 20 ans, bon, nous, on adore les voyages, mais on voyage pas souvent. Et on adore les gitans, bien qu'on ne les voit que de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant, désolé, c'est comme ça. Mais je joue de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument. Et je ne suis qu'un prisonnier, qu'aurait voulu être un homme libre, logique.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogé les rues d'un gars sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le temps, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perds la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche aux crèves. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toute les Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la prison, plus précisément de son abolitionnisme. Alors, nous avons invité Chaîne Maurice. Chaîne, bonjour.
Bonjour.
Pour un ouvrage collectif avec deux autres co-auteurs qui sont Joël Charbi, c'est ça ?
Oui.
Et Gwenola Ricordo, qui a pour titre « Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal » aux éditions Luxe et dans la collection Instinct de Liberté. Alors, cette collection Instinct de Liberté, nous avions déjà reçu il y a quelque temps de cela un autre auteur qui est Martin Senevitz pour « Haymarket, une histoire du 1er mai ». Donc l'émission est sur le site du groupe Louise Michel, dont l'adresse est groupe-louise-michel.org. Et l'émission s'appelle Haymarket. Voilà. Il faut choisir la rubrique Pas de quartier, bien sûr. Chêne, donc, est-ce que tu peux... Ah oui, j'ai oublié de dire bonjour à tous ceux qui vont nous entourer. Samuel.
Bonjour.
François.
Bonjour.
Kandong.
Bonjour Marina.
Et bien sûr, Jean-Mi à la technique.
Est-ce qu'on pourrait juste, avant de commencer l'émission, dire un petit mot sur l'actualité en Palestine ?
Oui, bien
sûr. Parce que, comme vous l'avez sûrement vu, il y a les frappes sur Rafah qui ont été meurtrières dimanche, qui continuent encore aujourd'hui, là, à l'heure où on parle. Il y a les chars israéliens qui sont rentrés à l'intérieur du camp. Hier, il y a eu une grande marche qui était vraiment massive en France, mais aussi à d'autres endroits du monde. Et je pense que c'est important qu'on continue d'en parler à chaque émission. J'essaie d'en parler un petit peu parce que le génocide est toujours en cours. Et Netanyahou a confirmé qu'il allait continuer malgré la Cour internationale ou ce que vous voulez. Bon, voilà. Donc je pense que c'est important de penser à Rafah et de dire qu'il faut continuer d'informer, diffuser l'information de ce qui se passe en Palestine occupée.
Alors, nous avons fait une émission sur la Palestine et sur le conflit. Elle est aussi sur le site du groupe Louise Michel. Alors, Chêne, avant qu'on en rentre dans le dur de mur par mur, brique par brique, je voudrais que tu te présentes et que tu présentes les deux co-signataires du livre.
Oui, alors, donc moi, je m'appelle Chaïn Maurice, je suis doctorant en sciences politiques à l'université Paris-Saclay, à un laboratoire qui s'appelle le CESDIP, qui travaille sur les questions pénales, et aussi au Centre Marc Bloch de Berlin. Et donc, je fais une thèse qui porte sur l'histoire, précisément, de l'abolitionnisme pénal en Europe, depuis les années 60. Ensuite, il y a Joël Charby. Joël Charby, lui, est docteur en sociologie, et il était à l'université de Lille 1. Et il est chercheur associé aujourd'hui au Centre Lillois d'études et de recherche sociologique et économique. Et il a fait une thèse sur la participation des personnes détenues au gouvernement des prisons en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Et après, il a travaillé sur les politiques pénitentiaires et sur une histoire comparée notamment des systèmes carcéraux entre France et États-Unis. Ensuite, Gwenola Ricordo, c'est pas le premier livre qu'elle sort... Elle a d'abord travaillé en thèse sur la question des proches des personnes incarcérées. Elle a travaillé sur la sexualité en prison et les contestations du système carcéral. Et donc ces dernières années, depuis 2019, elle a sorti plusieurs ouvrages sur l'abolitionnisme. D'abord pour elle toute, Femmes contre la prison en 2019, sur les liens entre féminisme et abolitionnisme pénal. Ensuite, il y a eu Crime et peine, qui était sur trois figures fondatrices de l'abolitionnisme pénal, Le Coulsman, Nils Christie et Ruth Morris, qui est une Canadienne états-unienne. Et dernièrement, sur l'abolition de la police...
1312
raisons d'abolir la police.
Voilà. Voilà. Très, très bon succès de librairie, notamment à Publico, notre librairie chérie. Alors, Chêne, la préface est faite par Madame Catherine Baker. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur cette personnalité ?
Oui. Alors, Catherine Baker était journaliste pendant des années, notamment à partir de la fin des années 60. Elle a travaillé chez Le Nouvel Observateur, chez Libération dans ses débuts. Elle a fait beaucoup de séries aussi documentaires France Culture. Et après, elle a été une autrice pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Elle a notamment écrit des ouvrages qui ont beaucoup circulé. On peut penser notamment en 85 à l'ouvrage qui s'appelle Insoumission à l'école obligatoire sur... la perspective, on va dire, antiscolaire dans ces années-là. Ensuite, en 95, il y a une de ces conférences qui a tourné sur l'abolition de la prison, et en 2004, ça a vraiment donné un ouvrage beaucoup plus agrémenté encore, qui s'appelait « Pourquoi faudrait-il punir ?» sur l'abolition du système pénal, et qui a été réédité par les éditions Tain Parti en 2014, il me semble. Et donc, on a voulu choisir notamment Catherine Baker parce que c'était une figure féminine en plus assez influente dans le mouvement abolitionniste. Elle a ses écrits ont influencé un certain nombre de personnes de plusieurs générations, notamment parmi nous trois. Et par exemple, pour resituer un petit peu, en 84, elle a été l'autrice et la signataire de ce qu'on a appelé le manifeste abolitionniste. Et donc là, pour préparer l'émission, je me suis replongé dedans. Si vous voulez, je peux vous lire le tout début de l'intro pour que vous saisissiez un petit peu la teneur du manifeste. Donc, je commence à lire. L'histoire a du bon sens. L'histoire va dans le sens de la modernité. C'est pourquoi l'archaïsme de la prison détonne dans nos paysages. À la stupeur de nos hommes politiques, l'enfermement carcéral n'est déjà plus nécessaire à l'opinion publique. Elle est bonne fille, l'opinion. Rien l'amuse. Reggae ou travail d'intérêt général, peine de mort ou barbiturique, ou Le Pen, c'est tout dit pareil, vu à la télé, comme le proclame l'ultra-publicité. Bref, si l'abolition de la prison n'est pas pour demain, c'est pour le jour d'après. Ce n'est guère qu'une question de patience. Ce texte prend les devants. Il est un appel à ce que les gens conscients des ordinaires escamotages se manifestent et expriment que ce n'est pas tout de chercher à travestir les formes vieillies de la prison, mais qu'il faut compter avec notre volonté d'abolir radicalement tout enfermement, toute punition et toute loi aussi pendant qu'on y est. Utopie ? Absolument. Au même titre qu'il est utopique de vivre. Notre réflexion est une action. Et il y en aura d'autres. Mais il y en aura d'autres. Nous nous sentons très forts de notre cohérence et nous avons devant nous un vaste champ de lutte. Nous avons décidé de ne plus rester forcément séparés et entendons nous associer dans ce combat abolitionniste. Nous ne luttons pas pour les tolards, il va sans dire. Certains d'entre eux font partie de notre mouvement. Chacun de nous se sent concerné en tant qu'individu. Donc ça, c'est juste l'introduction du manifeste abolitionniste de 1984 qu'elle a rédigé, comme elle l'avait dit, à partir du début des années 80. Après la victoire de Mitterrand, il faut se remettre dans le contexte. Pour elle comme pour d'autres, Mitterrand arrive et il y a tout un souffle révolutionnaire de gauche qui s'effondre un petit peu. Beaucoup de gens qui rentrent dans le système. Toute une dynamique aussi qui, au niveau des luttes carcérales et pénales qui est beaucoup plus difficile. Et elle a écrit justement pour essayer de redonner une sorte de vigueur et comme c'est dit un peu dans cette intro-là, pour essayer d'agréger des forces contre la prison et rappeler ce combat-là alors qu'on est en train d'abolir la peine de mort. Pour dire qu'il faut aller plus loin que ça encore. Et c'était aussi le moment où il y avait plusieurs qui voulaient lutter contre les longues peines. Notamment. Donc elle s'est impliquée dans ce truc-là et elle voulait aussi aller plus loin en réinvoquant cette nécessité d'abolir la prison et le système pénal. Et donc parmi les signataires, on trouve plusieurs personnes qui ont été importantes dans les années 70 pour la question de l'abolition de la prison. Notamment, on peut penser à tous les gens qui ont constitué le comité d'action des prisonniers dont on parle dans le livre, dans le chapitre sur la France, le 2 il me semble. On peut penser à Serge Livrozet qui est décédé en décembre 2022. Jacques Lesage de La Haye qui est toujours là et qui a été beaucoup aussi dans... Enfin, d'ailleurs, tous les noms que je vais citer, ils ont été beaucoup à Radio Libertaire. Hein.
Tout à fait.
Donc Annie Livrozet, Jean Lapéry qui était aussi au CAP et après qui a fondé dans les années 80, qui était au CAPJ, donc Comité d'Action Prison Justice. Et il y a aussi par exemple des figures comme Elisabeth Auerbacher qui était la fondatrice du comité de lutte des handicapés en 73 et avec son journal notamment Handicapés Méchants. Voilà, donc il y a tout un tas de personnalités qui ont signé ce manifeste. Ce manifeste a tourné pas mal, en fait, à l'époque. Notamment, elle me disait dans les prisons, parce que ils étaient tous en lien avec des gens à l'intérieur et ça a rencontré un certain succès. Et donc, 84, c'est aussi le moment où on l'appelle pour venir. Et ça, c'est pareil, on en parle dans le livre, notamment dans le chapitre 5, quand on parle des circulations. On l'appelle pour qu'elle vienne à la première conférence internationale sur l'abolition de la prison. Qui se passe à Amsterdam, enfin pardon, la deuxième édition, parce que la première édition avait lieu en 83, au Canada. Et donc, il y a un des abolitionnistes qui est assez connu à ce moment-là, et qui se fait aussi même connaître en France par la publication d'un livre en 82, Peine perdue, sur l'abolition du système pénal, qui s'appelle Lou Koolsman, qui lui demande de venir à Amsterdam, et donc elle y va, et elle fait une version encore plus détaillée un petit peu de ce manifeste-là. Ça donnera ce qu'on a appelé pendant longtemps dans les milieux abolitionnistes la conférence d'Amsterdam, qui aura circulé pendant quelques années. Et après, voilà ce que je vous avais dit sur le livre qui sort après. Cette conférence sera publiée vraiment en 92 aux éditions du Ravin Bleu. Et elles ont été rééditées là en 2023. Je dis ça parce que du coup, c'est des actualités de librairie. Donc, si les gens veulent avoir accès à ces ressources, soit vous le trouvez sur Internet, soit vous trouvez là une très belle édition de 2023 aux éditions Ravin Bleu. Et après, comme je vous disais, cette conférence-là a été encore plus développée ensuite dans le livre de 2004, donc, qui s'appelait, je ne sais plus, je vous ai dit, ah oui, pourquoi faudrait-il punir ? Voilà un petit peu, et donc c'est la raison, enfin comme voilà, ces écrits ont influencé pas mal d'abolitionnistes en France, et qu'en plus c'est une figure féminine, et qu'il n'y en a pas tant que ça souvent dans les mouvements abolitionnistes, on s'est dit que c'était une bonne idée de mettre Catherine Becker à l'honneur dans cette préface.
Parfait. Alors Madame Becker dit ceci, page 10, elle dit « Les responsables de nos sociétés ne s'intéressent pas à la délinquance. Ils veulent punir, montrer qui domine et que la prison ne, alors que la prison ne sert à rien, c'est une question de pouvoir. Cela nous permettra ensuite de définir la punition, le droit pénal. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce propos, punir ?
Oui, si vous voulez, je peux dire un peu en quoi consiste punir, condamner, voilà. Qu'est-ce qu'est le système pénal, un peu démêler tous ces termes.
Tout à fait.
Donc, bon, punir, souvent, on l'utilise comme équivalent de condamner. Mais bon, si on veut être un petit peu précis, punir, ça relève plutôt d'une activité profane, comme on va faire dans la sphère domestique, et c'est pas forcément lié en fait à des règles explicites de droit, par exemple. Tandis que condamner, c'est vraiment l'équivalent de punir, mais en tant qu'activité juridictionnelle, c'est-à-dire qui va s'adosser à une norme. C'est la justice, enfin l'institution judiciaire qui condamne, par exemple. Donc la condamnation, c'est ce qui est exercé généralement par les magistrats dans le cadre d'une procédure pénale. Et donc l'autorité chargée de la condamnation, c'est ce qu'on appelle le juge. Et donc le juge, avant qu'il y ait le juge, il y a d'autres institutions. Donc si on reprend la chaîne pénale, le système pénal commence avec d'abord la police. La police ne se résume pas à son activité pénale, mais c'est quand même une bonne part de son activité. Ensuite, on a la station tribunaux, où là on va avoir tous les acteurs, magistrats, avocats, etc. Et ensuite on a l'exécution des peines, ce qu'on appelle l'exécution des peines. Et donc dedans on a la prison, mais la prison n'est qu'une des peines parmi d'autres. Donc ça c'est en gros le système pénal. Après, quand on dit système pénal, bon, si vous regardez un peu les travaux de sociologie, il y en a plein qui vous diront que c'est une expression exagérée parce que ça insiste sur la cohérence d'un tel système. Vous voyez, quand on dit système, il y a une idée de cohérence. En réalité, quand on regarde sociologiquement... le système pénal, enfin, encore une fois, j'utilise le terme de manière lâche, hein, c'est vraiment composé de plein de segments et de groupes qui sont fragmentés, qui sont pas forcément très bien coordonnés ou harmonieux. Voilà. Et donc, tout au long de cette chaîne pénale, on va avoir des affaires qui vont rentrer dans la machine, donc dans le système pénal, et qui, au fur et à mesure, vont être, il va y avoir une sorte de comment dire, une perte de substance, comme on dit en sociologie souvent, c'est-à-dire que bah, y a plein d'affaires qui vont rentrer, et après on va en écarter plein. Et celles qui finissent vraiment à l'échelon tribunaux, puis après condamnation, puis après vraiment exécution des peines, et ben on a toujours moins de peines, enfin d'affaires, pardon. Et donc, peut-être que c'est le moment que je dise juste un truc simple, un des constats fondamentaux des abolitionnistes et de leur point de départ, c'est de dire il ne faut pas oublier que sociologiquement, quand on regarde, l'extrême majorité, l'écrasante majorité des situations qu'on pourrait faire rentrer dans le système pénal parce que, on va dire, ça rentre dans le cadre du code pénal, donc des infractions, ne passent jamais par le système pénal. Jamais. Ce qui fait dire que, en fait, la plupart des gens, soit ils ne règlent pas leur situation qui pourrait être potentiellement criminalisable, soit ils les règlent d'une autre manière, et ça, on n'a pas de main dessus, quoi. Voilà. En gros, pour le système pénal.
Bien. Alors, Samuel, tu as une...
Tu parlais de définir ce que c'était la punition et la condamnation. Et bon, c'est une question que je voulais un peu poser à un moment dans l'émission, mais bon, bah, écoute, là, le moment s'y prête. Mais il y a un auteur que je m'attendais à avoir un peu plus que ce que je l'ai vu finalement, c'est Foucault. Et je voulais te demander, du coup, puisque définir, c'est une grosse partie du travail théorique de Foucault, n'importe quel travail théorique, quelle place il a eu dans ton propre parcours intellectuel et théorique ?
Foucault ?
Oui.
Moi, je pense que si j'ai voulu m'intéresser très intensément à la question de la prison, c'est notamment après avoir lu « Surveiller et punir ». Quand j'étais étudiant, et simplement parce que je pensais pas que c'était une question si politique que ça. Après, ça m'a intéressé. J'ai vu qu'il y avait le Génépi qui existait, par exemple, qui était l'association jusqu'à il y a quelques années, qui était une des plus grosses associations étudiantes de France, où on entrait en détention, on faisait tout un tas d'activités politiques autour de la prison. Donc Foucault, ouais, je pense que, en fait, Foucault, il y a une ombre. D'ailleurs, on le lit un peu dans le livre, il y a une ombre. Enfin, c'est pas une ombre, comment dire, un spectre de Foucault qui hante tous les milieux anticarcéraux en France. Et c'est un peu pour ça aussi qu'on voulait mettre en avant l'abolitionnisme pénal et tout ce qui avait existé dans plein d'autres pays, parce que j'ai l'impression que la critique de la prison, souvent en France jusqu'à aujourd'hui, a tendance à être focalisée par les analyses de Foucault, qui est quand même mort en 84. Donc ça a été stimulant pour énormément de gens, que ce soit en France ou à l'international, les analyses de Foucault, et y compris par exemple pour beaucoup d'abolitionnistes. D'ailleurs, il a été en lien avec quelques-uns. La conférence où je disais, où Catherine Baker était un de mes enquêtés, celui qui l'avait organisé, m'avait confié aux Pays-Bas qu'il devait venir Foucault. Enfin, il devait venir. Il était question qu'il vienne peut-être, mais après, il est décédé du sida. Mais donc, voilà, nous, notre but, c'était aussi de montrer qu'il y avait plein d'analyses hyper intéressantes qui avaient été produites un peu partout. Et justement, et dans le chapitre, notamment le premier, il me semble, sur les analyses abolitionnistes, vous savez ce que Foucault, par exemple, et d'autres pourraient appeler le dilemme de la réforme des prisons, précisément, les abolitionnistes, ils ont travaillé dessus intensément, et je pense qu'ils ont proposé des réponses dès le début des années 70 qui sont hyper satisfaisantes, en tout cas hyper intéressantes, et qui participent à résoudre ce problème-là. On pourra y revenir.
D'accord. Alors, on revient sur le propos de Madame Baker. La prison ne sert à rien, c'est une question de pouvoir, du plus fort sur le plus faible. Et donc, quelque part, certaines féministes qui veulent plus de prison, ça pose un problème. Est-ce que tu peux revenir sur cette analyse ?
En particulier, tu veux dire sur les féministes qui
non, veulent... non, sur le fait qu'un certain nombre d'activistes sont d'accord pour qu'il y ait plus de prison ou une aggravation des peines,
ouais.
Alors que la prison ne sert à rien.
Ouais. Alors là, peut-être on y reviendra certainement aussi un peu plus tard si on parle des évolutions de ces 30-40 dernières années.
Oui.
Mais il faut savoir qu'il y a eu dans les années 70 un gros débat au sein des mouvements féministes qui se développait de manière extrêmement rapide sur la question du recours ou non à la prison et plus largement au système pénal. Un débat qui, peut-être ces dernières décennies, avait largement disparu, en fait. Mmh. Où il y avait une sorte d'évidence de la prison. Et pour comprendre ça, il faut, et c'est ce qu'elle dénonce un petit peu Catherine Baker, j'ai encore vu récemment, et c'est vraiment comme ça qu'elle l'évoquait, c'est ce moment-là, en fait, où à partir du milieu des années 80 et surtout des années 90, on ne peut même plus parler, justement, dire contre le viol ou contre toutes ces violences sexuelles et sexistes, la prison n'est d'aucun recours, ou le système pénal n'est d'aucun d'aucune utilité, il ne fait qu'aggraver la situation. Et donc, elle, ce qu'elle dénonce, c'est ça, en fait, c'est cette pensée de courte vue. Mais bon, encore une fois, il faut le relier, parce que quand on regarde, nous, les différents pays qu'on a étudiés, notamment en Europe occidentale et aux États-Unis, c'est la même chose qui se passe. Bon, aux États-Unis, il y a peut-être plus un développement du féminisme anticarcéral ou abolitionniste, comme on pourrait l'appeler, mais pas abolitionniste lié à la prostitution, hein, abolitionniste lié à la prison et au système pénal. Ça se développe certainement plus tôt qu'en Europe, mais en Europe, il y a aussi un retour à partir de ce moment où on rentre, à partir du milieu des années 80, dans un contexte économique beaucoup plus défavorable, c'est-à-dire entrer dans une ère de chômage de masse. Au niveau politique, il y a un déclin de toutes les organisations qui s'étaient développées depuis 15 ans minimum, depuis la fin des années 60. On rentre dans une ère de plus en plus néolibérale. Et donc, en fait, une ère totalement hostile à ce genre d'idées radicales, que ce soit là au niveau du pénal, mais aussi dans d'autres mouvements radicaux de gauche. Et donc, dans ce contexte, il y a tout un tas de mouvements qui vont se mettre sur une posture défensive. C'est-à-dire que beaucoup de mouvements, en l'occurrence féministes ou antiracistes, ou que sais-je, ont eu un certain nombre d'acquis au cours de la décennie 70. Et ils vont décider, sachant qu'ils ne peuvent plus être très offensifs, ils vont être sur la défensive. Et donc, rester sur des stratégies judiciaires et donc s'enfermer dans des mobilisations du droit, par exemple, et donc défendre ce qu'il y a déjà eu. Et donc dedans, il va y avoir la mobilisation de l'appareil pénal, l'appareil judiciaire, et donc voilà, c'est un peu ça qu'elle dénonce.
D'accord.
Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui se traduit en fait comme une lutte politique plus large au sein des mouvements, là on parlait de féminisme, mais qu'on peut retrouver dans n'importe quel mouvement, où la question du recours au système pénal, à la justice, à la police, etc., elle se recoupe aussi avec d'autres questions comme l'homonationalisme, par exemple, ou comme des collectifs féministes de droite ou d'extrême droite comme Némésis ou quoi, qui vont avoir tendance en fait à combattre les idées les plus radicalement révolutionnaires à gauche pour proposer un féministe qui soit vraiment orienté sur le nationalisme et une vision aussi très biologisante de la femme, donc qui exclut beaucoup les travailleurs du sexe, les personnes trans ou LGBT, etc. quoi. Il y a un recoupement plus large de ça, quoi.
Oui, ça c'est clair. Et je pense que ça, par contre, c'est dans les. Vraiment, c'est plutôt propre aux dernières décennies, là. Enfin,
oui,
peut-être aux deux dernières décennies.
Ouais.
Mais avant, c'était pas si systématiquement développé ce côté réactionnaire revendiqué du féminisme.
Ouais.
Et d'ailleurs, enfin, mais si des gens veulent plus d'informations là-dessus, c'est précisément la question du. Enfin, le livre de 2019 de Guanola, Pour elle toute, femme contre la prison, c'est vraiment. Ça traite beaucoup cette question-là.
Alors, Madame Baker explique votre propos. Et elle explique pourquoi nous, qui sommes abolitionnistes, devrions lire votre livre. Elle est très précise. Elle dit nous devons avoir des arguments et pousser le débat beaucoup plus haut. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce livre, vous avez réussi à nous donner tous les arguments possibles et imaginables ?
Non, ça c'est. Non. Notre but, comme on.
Ben si, parce qu'il y a une foire aux questions à la fin du livre,
oui,
qui
oui,
est
oui.
excellente.
Bah,
qui
merci.
Est très,
c'est très gentil.
Elle est parfaite.
Bah, Après la conclusion,
elle est parfaite.
Bah, notre but c'était de mettre une première pierre à l'édifice, pour reprendre la métaphore de brique par brique, mur par mur.
Mm-hmm.
Donc non, enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas exhaustif du tout et qu'on ne prétend pas l'être. Notre but, c'est vraiment de faire une mise en chantier, de proposer une histoire générale de l'abolitionnisme pénal depuis 50 ans, parce que maintenant, on a quand même un certain recul pour faire un certain bilan. Il y a plein de travaux aussi, parce qu'on s'appuie sur plein de travaux pour les différents pays. Vous voyez, on traite beaucoup de langues différentes aussi. On n'est pas que sur l'anglais ou sur les États-Unis. On est beaucoup sur l'Europe. On essaie de considérer aussi l'Amérique latine et d'autres pays à certains moments. Donc nous, on revendique une perspective plutôt modeste, comme on dit dans l'intro, lacunaire, où on va parler des différentes mobilisations, des pratiques, des stratégies, des réflexions qu'il y a pu avoir autour de l'abolitionnisme pénal depuis 5 décennies. Encore une fois, sans être exhaustif, mais de montrer qu'il y a eu plein d'individus et plein de groupes qui, à l'échelle locale, nationale ou transnationale, ont cherché à faire avancer cette cause. Et donc... Nous, pour nous, c'était aussi de montrer que c'était pas un truc qui débarquait des États-Unis depuis 2020 ou vous savez des mobilisations de George Floyd, parce qu'il y a plein de gens qui ont commencé à entendre parler de l'abolitionnisme comme ça. Surtout comme la droite adore le dire, ça vient des campus américains, etc. Nous, c'était montrer qu'il y avait une histoire
bien plus ancienne.
Voilà, transnationale et beaucoup de choses, et de donner aussi les ressources de faire une synthèse un peu inédite, parce qu'il y a personne à notre connaissance, même en anglais, qui a fait une telle synthèse, juste l'Europe, les États-Unis et différents autres pays. Donc nous, on met ces ressources à disposition. Et après, le but, c'est que ça suscite plein d'autres histoires locales, nationales, des groupes. Voilà, nous, c'est de donner une sorte d'élan quoi, à ce genre d'idées et qu'effectivement, on avance sur les débats d'idées grâce à ça.
D'accord. Alors, si vous êtes d'accord, messieurs, nous allons faire une pause musicale. Jean-Michel, s'il te plaît.
Roper, you've been living hell to me. You've galled at me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago, I stopped asking why. Oster Roper, what good do you think you'll do? Do you think I'll be different when you're through? You've been my heart and mind, and you warped my soul. And your stone walls turned my blood a little cold. May you rot and burn in hell.
May walls fall and may I live to tell. May all the world forget you've ever stood. Cause the whole world will regret you did no good. Osterhofer, you've been living hell to me. Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig. Detta är en sång om me and Bobby McGee.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission sur l'abolitionnisme pénal avec Shane Maurice. Shane, pourquoi avoir choisi cette musique?
Alors, cette chanson de Johnny Cash, qui à la base s'appelle Saint Quentin, du nom de la prison californienne où il avait enregistré cette première version, est très connue. Et ici, je pense que Radio Libertaire en général, elle a dû passer 1 million de fois depuis le début. C'est une chanson qu'on sort en permanence quand il s'agit de la question d'abolition des prisons ou d'un regard critique sur la prison. Et dans la musique connue, quoi. Là, en l'occurrence, la musique country. Mais là, c'est une version très spécifique parce qu'elle vient d'un album précisément qui a été enregistré à Österåker, qui était une prison à 30 km de Stockholm, donc en 72, alors que lui, la première version qu'il avait enregistrée, Saint Quentin, il avait enregistré en 69, donc en Californie. Donc, juste pour resituer un petit peu, si vous voulez, Johnny Cash, lui, à partir de la fin des années 50, il fait plein de concerts dans les prisons. Apparemment, ça aurait été suscité par la vue d'un documentaire quand il faisait son service militaire en Allemagne. À un moment, il a l'occasion de faire un concert en prison, après il en fait plein. Et en fait, ça va devenir un peu une sorte de personne qui va porter la cause de la réforme des prisons aux États-Unis dans l'espace public. Et surtout à partir du moment où il va avoir un énorme succès, notamment lié à ses enregistrements en prison. Les deux principalement qui vont être à Folsom en 68, c'est une prison aussi californienne, et après en 69, comme je le disais, à Saint Quentin. Et ça, en plus, bon, faut se remettre dans la période de l'époque où il y a, après de l'imaginaire beatnik, etc. Il y a une sorte de romantisation de la révolte, du prisonnier, des déviants, etc. Et donc là, ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est qu'elle est assez peu connue. Et en fait, il fait la version donc de Saint Quentin exacte, mais en remplaçant Saint Quentin par Österåker, qui est le nom de la prison suédoise. Et donc là, on voit les réactions des prisonniers qui sont comme des fous, quoi, parce qu'on dit leur prison. Et puis ceux qui connaissent pas bien ou qui comprennent pas l'anglais, mais en gros toute la chanson, elle fait que dire en gros je veux brûler cette prison, quoi. Alors qu'en fait c'est un concert qui est organisé par l'administration pénitentiaire, qui est filmé, qui est enregistré, et en gros il dit cette prison elle m'a fait vivre un enfer, et après il prophétise le fait que dans quelques années il se souviendra de cette prison quand elle sera tombée en ruine, quoi. Donc vous voyez, et ce qui est intéressant, je trouvais que ça faisait un bon lien parce qu'on a tout un chapitre notamment sur l'Europe où on voit que les plus gros mouvements des prisons dans les années 70 commencent précisément en Scandinavie et notamment en Suède où il y a un énorme mouvement autour avec des mobilisations qui parfois engagent l'essentiel de la population carcérale et notamment à Österåker qui est l'épicentre, qui est une prison toute neuve à ce moment-là et qui est l'épicentre de la révolte où il y a les premières négociations de prisonniers avec l'administration pénitentiaire, et c'est une première mondiale. Ils instaurent un tel rapport de force par leur grève de la faim et leur grève du travail et diverses grèves, ils sont des milliers et des milliers, que les autorités sont obligées de négocier collectivement, au niveau national, quoi, pour la première fois. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un beau clin d'œil, sachant qu'on est au moment en 72 où il fait ça, on est juste après ce moment énorme, et au moment où on est dans l'épicentre, justement, de cette décennie de mobilisation carcérale un peu partout en Amérique du Nord et en Europe.
Bon.
Tu dirais que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les pays scandinaves, justement, ils ont cette image d'avoir des prisons vachement plus, bon, j'aime pas le terme, mais enfin, humaines, entre guillemets, quoi. Ou en tout cas, avec plus d'avancées que nos prisons à nous en France.
En fait, c'est intéressant parce que, à cette époque-là et au moment où Johnny Cash vient, c'est déjà le cas. C'est déjà, ils se vendent déjà à l'international comme un modèle suédois, notamment les Suédois, c'est les premiers.
Ouais.
Après, il y a la Norvège qui arrivera, etc. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils disent, regardez, nous, on peut inviter Johnny Cash, qui va, ça fait des années qu'il chante des trucs contre la prison, ou en tout cas assez critiques, pour une réforme des prisons. Et eux, comme ils sont un peu, ils se voient comme l'avant-garde de la réforme des prisons, ils invitent Johnny Cash. Et Johnny Cash, il y va précisément parce qu'en fait, la Suède est vue comme l'avant-garde de la réforme des prisons.
D'accord.
Très progressiste. Voilà, c'était vraiment un mouvement énorme là-bas.
Ok.
Alors, page 13, dans l'introduction, un propos. Les services que sont censés rendre les prisons ne compenseront jamais les torts causés. Est-ce que tu peux revenir sur ce propos ?
Oui, alors ça, c'est le point de départ même de la réflexion abolitionniste.
Voilà.
C'est de dire... Donc c'est très bien d'avoir choisi cette citation. C'est de dire qu'en fait, effectivement, pourquoi les abolitionnistes veulent abolir la prison et a fortiori après le système pénal ou d'autres systèmes de contrôle social ? Parce que ce qu'ils sont censés apporter est dérisoire par rapport aux problèmes qu'ils vont créer. Et donc là, si vous voulez, je vais dérouler un petit peu l'analyse du système pénal et de la prison abolitionniste pour qu'on voit justement quel est qu'est-ce qui pose problème. Donc on peut résumer, et ça c'est dans le chapitre 1 précisément qu'on en parle, ça commence comme ça le livre, sur l'analyse abolitionniste. L'analyse abolitionniste, elle s'oppose précisément non pas à la réforme, mais au réformisme. C'est-à-dire, croire qu'on peut, par la réforme, améliorer le système et le rendre meilleur, en fait, ou plus efficace. Pour les abolitionnistes, c'est un leurre, en fait, de faire ça. Donc, pourquoi ? Parce que leur critique du système pénal et de son fonctionnement est de trois ordres. D'abord, ils vont dire que le système pénal est inefficace et inopérant. Ensuite, deuxième ordre de critique, qu'il est injuste et inégalitaire. Et le troisième ordre de critique, c'est qu'il est destructeur et moral. Donc d'abord, sur la question de l'inefficacité et du caractère inopérant du système pénal. D'abord, les abolitionnistes vont dire, la plupart du temps, le système pénal, il revendique des fonctions depuis le 19e siècle, depuis qu'il s'est développé de manière... dans l'État moderne.
Avec la France comme...
Avec la France qui était en pointe
pour exactement. Exporter son modèle.
Voilà. Notamment avec aussi la colonisation, etc.
Oui.
Donc, historiquement, les quatre justifications du système pénal, ça va être ce qu'on appelle la rétribution, la dissuasion, la neutralisation et la réhabilitation. Je vais détailler un tout petit peu ce que c'est. Donc, la rétribution, c'est un mot un peu qui a l'air savant, qui désigne simplement le fait que le système pénal cherche à faire souffrir la personne qui a commis un méfait pour essayer de compenser le méfait ou donc la souffrance qui est censée avoir été commise.
C'est une vengeance.
Voilà, c'est de la vengeance institutionnalisée. Exactement. Donc c'est la fonction un peu historique du système pénal et qui était déjà présent dans le régime, l'économie punitive qu'il pouvait y avoir avant et qui était plus liée, comme Foucault le montre par exemple dans Surveiller et Punir, sur les châtiments corporels, etc. Mais bon, ce qui se développe au 19e, justement, ils veulent montrer que c'est un système beaucoup plus éclairé, c'est le système des Lumières. Sachant que pour les Lumières, le bien le plus précieux, c'est la liberté, on va faire reposer le système pénal précisément sur une privation de liberté. Parce qu'on n'a pas besoin d'en faire plus, théoriquement. C'est ça un peu leur idée de base. Et montrer qu'en plus, selon leur idéal, l'homme est perfectible, l'être humain est perfectible. Et donc que la prison sera un temps où précisément on montrera à quel point la liberté est précieuse et donc ce sera par ça qu'on le punira et en plus il aura le temps, enfin la personne aura le temps de s'améliorer et de revenir dans la société. Donc là du coup on a parlé de la fonction de rétribution, donc de vengeance. Là j'ai abordé celle de réhabilitation, réinsertion, ça on en parle tout le temps, c'est un peu la dernière fonction de la prison, le supplément d'âme on va dire du système pénal. Et sinon souvent ce qu'on avance c'est dissuasion. Que ce soit dissuasion qu'on pourrait dire générale ou spécifique, c'est-à-dire est-ce que ça dissuade un individu en particulier ou les gens dans la société en général. Dissuasion ça peut être en amont, c'est-à-dire empêcher les gens de commettre des délits ou après une fois que la personne a été condamnée et qu'elle est passée par la prison, empêcher la récidive. Il y a ces deux types de dissuasion. Bon, toutes les études sociologiques, la plupart montrent que ça marche pas du tout en fait. Et ensuite, neutralisation, c'est certainement la fonction de la prison et du système pénal en général qui fonctionne le mieux. Et pour un temps donné, pour la prison, c'est-à-dire qu'on enferme pendant X mois ou années, la personne ne peut pas sortir. Et la peine de mort, neutralisation définitive. Mais bon, c'est comme dirait Angela Davis, la prison a fait disparaître les individus, mais pas les problèmes sociaux. Donc,
exact.
C'est quand même de courte vue. Donc, les abolitionnistes partent de ces fonctions revendiquées et disent « Regardez, ça ne fonctionne pas. » Et donc, ils dénoncent même, d'ailleurs, par exemple, je parlais de la réhabilitation, de la réinsertion, eux, ils vont plus loin que ça, parce qu'ils vont dire... Parce que souvent, on va dire aujourd'hui, la plupart des critiques sur la prison, ouais, ça va être « Oh, bah, la prison est trop punitive, elle n'est pas assez dans la réinsertion. » Mais en fait, les critiques qui émergent à cette époque-là, dans les années 60-70, c'est précisément de dire « Mais même votre idéologie du traitement et de la réinsertion, c'est fallacieux. Pourquoi ?» Parce qu'ils vont dire... d'abord, ils vont refuser les catégories pénales. Donc là, on va arriver dans le dur du sujet. Peut-être que tu auras des questions là-dessus. D'abord, ils vont dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut reconnaître sociologiquement que l'action du système pénal et de la prison est résiduelle. Ça veut dire que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'une infime partie des actes qui seraient potentiellement criminalisables, donc dans le code pénal, qui rentrent effectivement dans la machine. Et après, quand on regarde, comme je vous ai dit, ça s'écrème tout au long du processus. Donc, encore une fois, police, tribunaux, après prison et haute peine, ça s'écrème au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. Donc croire que l'ordre social serait totalement menacé si on enlevait ces institutions-là, c'est ne pas comprendre en fait comment fonctionne réellement le système pénal. Ensuite, au-delà même que ce système-là ne prend qu'une faible partie des situations potentiellement criminalisables, il faut aussi considérer que donc là c'est ce qu'on appelle en sociologie la criminalisation primaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on définit d'abord comme crime de base, ce que le code pénal ou ses équivalents dans les différents pays définit comme crime, c'est aussi extrêmement contestable. Il y a énormément de choses qui sont définies comme crime ou délit et qui ne sont absolument pas préjudiciables pour la plupart des individus. Et à l'inverse, énormément de choses qui sont très préjudiciables pour les individus et qui ne sont pas du tout dans le code pénal. Ce qui fait dire aux abolitionnistes que, c'est pour ça que, donc là je rentre un peu dans le dur de l'analyse abolitionniste sur la critique de la catégorie de crime. Pour eux, c'est un mauvais point de départ pour essayer de comprendre les situations et de les résoudre, les problèmes qu'on peut avoir. Parce que ce qu'on appelle le crime, donc encore une fois, j'utilise crime non pas dans le sens juridique stricto sensu, c'est-à-dire comme la catégorie la plus grave d'infraction, mais crime au sens crime et délit, quoi, infraction. D'accord ? Le problème, c'est souvent, on dit dans la société, la prison ou le système pénal est censé répondre à la criminalité ou au crime. En général, vous voyez, comme catégorie un peu générique. Les abolitionnistes vont dire, mais en fait, ça n'a aucun sens de parler de crime de cette manière-là et de manière aussi générale. D'accord ? Parce que le crime, ça, toutes les études sociologiques le montrent depuis le 19e, le crime n'a aucune ontologie. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui donnerait une essence à ce qui est criminel ou ce qui ne l'est pas. Quand on regarde dans les différentes sociétés, et encore aujourd'hui, ça change d'une société à l'autre. Il y a des choses qui sont un coup criminalisées, et à un moment, ça part... etc., etc. Et par exemple, on peut le voir là aujourd'hui dans plein de pays avec la question de la consommation de cannabis ou de sa vente d'ailleurs, des choses comme ça. Ensuite, le crime, c'est une construction pour les abolitionnistes judiciaire de la réalité qui est manichéenne et inopérante. Parce qu'en fait, elle fonctionne fondamentalement sur des dichotomies, c'est-à-dire sur des couples de personnes, des bonnes et de mauvaises personnes. Souvent, c'est victime-auteur. Ce qui est assez... ce qui ne permet pas en fait, d'appréhender réellement les conflits tels qu'ils se passent et qui donnent en fait, des sortes d'abstractions qui décontextualisent les actes, les situations, qui réduit la complexité de tout ce qui a pu se passer et qui cherche simplement, donc le système pénal pour eux, cherche simplement à distribuer des bons et des mauvais points, des responsabilités, des torts pour imposer une réponse particulière qui est la punition. Donc en fait, pour les abolitionnistes, le système pénal qui est censé être, qui est censé rendre justice, il en oublie de rendre justice, et tout ce qui l'intéresse, lui, c'est moins de comprendre les situations et ce qui a pu se passer pour essayer de résoudre les problèmes sur le long terme, que d'essayer d'imposer, encore une fois, une culpabilité, de l'intégrer, de l'incarner dans un individu, et après, pour pouvoir le punir. Ensuite, toujours dans cette question de la critique du crime, ils vont dire que le système pénal est aussi un problème parce que c'est une machine autoréférencée. Et là, on peut revenir à Foucault. Tout à l'heure, tu parlais de Foucault, qui parlait, lui, du crime comme d'une invention diabolique du Moyen-Âge. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup systématisé à partir du Moyen-Âge, cette façon de concevoir le réel. Dans la mesure où, en fait, c'est moins les victimes de l'État. Enfin, depuis le Moyen-Âge, on a tendance à voir le crime comme un acte, et notamment quand il y avait la royauté, enfin les monarchies, comme le crime serait d'abord une
Une atteinte à la personne du roi.
Voilà. Et donc après de l'État. Et ça s'est prolongé en fait dans le système pénal moderne et dans les catégories pénales modernes. Donc ça c'est pareil, c'est-à-dire que on en oublie en fait à la base pourquoi la raison pour laquelle on avait voulu instaurer le système pénal. Donc là ça en vient à un des points centraux pour les abolitionnistes, c'est-à-dire que le système pénal non seulement ne considère pas la plupart des situations, ne les prend pas en compte, ne les traite pas dans sa machine, mais en plus quand ça rentre dans la machine, ces situations-là, il néglige les intérêts, les besoins des victimes et des communautés. Parce que souvent, on va invoquer aux abolitionnistes, non, mais qu'est-ce que vous faites des victimes ? Ben, en fait, le système pénal ne fait déjà pas grand-chose pour les victimes. Ouais. Ou en tout cas, pas des choses qui, de manière durable, apporteront des réponses.
Il y a des assos pour ça. Hein.
Oui. Il y a des assos, tu veux dire pour les victimes ?
Oui, oui.
Bien sûr. Ouais. Il y a différents types d'assos, bien sûr. Mais ça, c'est récent aussi. C'est très récent. C'est fin du XXe siècle.
Oui.
Et donc, un des concepts centraux aussi des abolitionnistes, et là notamment c'est un Nils Christie qui est un des principaux, on va dire, pères fondateurs de l'abolitionnisme pénal qui vient de Norvège, lui il va parler carrément de vol des conflits. C'est-à-dire que le système pénal vole les conflits aux gens, c'est-à-dire qu'une fois que la situation qu'on va donner aux institutions pénales rentre dans la machine, elle ne nous appartient plus. Parce que précisément, dans la continuité du Moyen-Âge, quand on commet un méfait, c'est d'abord contre l'État qu'on... ou contre la collectivité, ou contre, vous voyez, toutes
la
ces abstractions.
La justice suit son cours, après.
Voilà. C'est toutes les abstractions qu'on nous sort à chaque fois, même de philosophie poétique, sur le contrat social, comme si, en fait, c'était des choses qu'avait...
C'est le procureur de la République.
Voilà.
C'est la République qui les est.
D'abord du roi, et de la République ensuite.
Ouais, ouais.
Voilà.
Parce que finalement, il y a ce sujet. Je trouvais ça intéressant que tu parles d'abstraction, parce que, en fait, c'est vrai que c'est un peu quelque chose... qu'on peut retrouver dans d'autres critiques comme caractéristique de la modernité, l'idée qu'en fait on va avoir des abstractions qui vont régir la manière dont on va appréhender des situations, des faits, des personnes, etc. Un exemple qui serait un peu qui permettrait de faire un parallèle avec ce que tu dis, l'homosexualité. Aujourd'hui, on va dire une personne elle est homosexuelle, alors que le fait de percevoir l'homosexualité comme un mode d'être, comme une modalité de l'être, c'est un truc qui est très moderne. Et c'est pour ça qu'on peut dire d'un Romain qu'il est homosexuel, parce qu'il ne va pas se caractériser par son acte. Et au même titre, le criminel, c'est moderne de dire d'une personne, elle est un criminel. Et ça devient la définition de son être, en fait. Elle n'est plus une personne, elle est un criminel. Et on fait comme ça, on a comme ça des abstractions qui fonctionnent au final. Moi, c'est ça que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a quand même toujours ce rappel de dire... ça fonctionne pour des systèmes de pouvoir, quoi. C'est pas des éléments symboliques, c'est pas des choses qui ont un pouvoir qui sortirait de nulle part. Ils sortent de rapports de force internes à la société. Et ça, vraiment, c'est rappelé tout le long. Mmh. Et en fait, c'est là où, du coup, on peut voir l'espèce de dialectique qu'il y a entre une institution qui produit des savoirs, qui lui permettent d'appréhender, justement, tous les éléments qui vont passer à la moulinette de l'institution pénale. Et les rapports de force dans la société, et voir comment les uns s'articulent avec les autres, quoi, finalement.
Ouais, exactement. En fait, c'est pour ça qu'il faut bien voir que la perspective abolitionniste va beaucoup plus loin que juste la dénonciation un peu humanitaire de la prison comme mal, etc.
C'est un projet politique.
Ouais, exactement. C'est un projet politique, et c'est aussi du coup un projet, on va utiliser un gros mot, mais épistémique, c'est-à-dire que pour essayer d'avoir des solutions politiques, il faut d'avoir une bonne analyse. Si l'analyse est mauvaise, les solutions politiques, elles serviront à rien. Donc c'est d'abord, et là c'est pour ça que je vous détaille un peu sur l'analyse abolitionniste, parce que c'est tout le point de départ qui fait qu'après ils vont proposer d'abolir donc les institutions décriées et proposer d'autres modes de régulation divers et variés. Et donc ce que tu disais c'est fondamental, c'est que effectivement un des gros problèmes aussi du coup de cette catégorie de crime et de cette vision portée par le système pénal, c'est typique de cette on va dire de cette idéologie un peu bourgeoise de la Révolution française, qui va être d'avoir une conception très individualisante, pathologisante et dépolitisante des situations. Donc effectivement, ça va juste être une personne qui a commis un acte, qui va contre la loi, contre la collectivité, et qui est coupable, et donc on va lui imputer l'entière responsabilité de son acte. Et en oblitérant totalement les dimensions les plus structurelles qui président à ces actes-là. Donc sociales, économiques, culturelles. Donc là, on en vient à un aspect, donc le deuxième aspect que je disais de la critique abolitionniste, c'est-à-dire le système pénal, d'abord, quand on regarde sociologiquement, est inégalitaire. Donc il y a beaucoup des théoriciens abolitionnistes qui sont d'abord des sociologues ou des criminologues qui ont étudié de ça de près. Et en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement, depuis le 19e siècle, la criminalisation sélective. Donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a criminalisation primaire et secondaire, ok, sociologiquement. Donc primaire, c'est ce qu'on désigne comme crime, et secondaire, c'est qu'est-ce que les institutions vont effectivement aller chercher comme individu et telle situation, parce que c'est censé être des crimes, d'accord. Donc, que ce soit dans la primaire ou dans la secondaire, en fait, c'est toujours les actes des classes populaires qui sont visés en priorité, et celles de généralement des fractions les plus dominantes de la société, généralement, c'est pas vu comme des crimes, ou alors on le traite d'autres manières. Et ensuite, dans l'action des institutions pénales, que ce soit la police, ou, enfin, encore une fois, toute la chaîne pénale, c'est encore une fois les classes populaires, historiquement et dans tous les pays, qui sont surcriminalisées. Et on pourrait ajouter à ça, mais c'est souvent un sous-ensemble, des minorités ethno-raciales. Donc ça, c'est aussi la deuxième critique du système pénal par Issa Poussini, qui est de dire, voilà, en fait, donc le système pénal perpétue et aggrave un ordre social et racial inégalitaire. Et dernière critique, et ça c'est très rapide, donc pour finir sur cette question de les coûts sociaux du système pénal sont certainement supérieurs aux coûts sociaux présumés de ce qu'on appelle le crime, c'est le caractère immoral et destructeur du système pénal. Tout à l'heure tu disais justement ce qu'on appelle la rétribution, c'est la vengeance. Exactement. Et donc,
la loi du talion.
Voilà, c'est un peu le truc historique. Et bien là justement ils vont dire, non seulement le système pénal est inopérant, non seulement il est inégalitaire, mais en plus il est destructeur pour les individus et les groupes qui les entourent. Parce que quand quelqu'un est en prison, c'est pas juste la personne qui est en prison qui souffre, c'est aussi tous les gens qui sont autour et les communautés. Parce que, comme on le dit, s'il y a une surcriminalisation de certaines communautés, c'est vraiment sur des générations qu'on peut sentir les traces d'une criminalisation de ces populations-là. Et donc, c'est pour ça que les Abossini disent, bon, à un moment, il faut arrêter de rentrer dans l'idéologie du système pénal qui est de dire, on est là pour la réinsertion, etc., etc. Donc, par exemple, quelqu'un comme Nils Christie, que je citais tout à l'heure sur la question du vol des conflits, va dire, il faut dire les choses clairement. Il faut placer la question de la prison ou du système pénal d'un point de vue moral, il faut arrêter avec les pseudo-justifications utilitaristes. C'est une imposition institutionnalisée de la souffrance, le système pénal. C'est pas plus que ça. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on le veut ou est-ce qu'on le veut pas? Et pour la plupart des abolitionnistes, en fait, c'est ce qu'on les appelle, pour reprendre le titre de Lucullsmann, là que je disais de 82, peine perdue. Parce qu'en fait, à la limite, si la souffrance servait à accéder au bonheur, ça pourrait justifier peut-être. Mais là, c'est une souffrance stérile qui ne sert à rien, qui ne fait que détruire les individus.
Sur le malheur abîme. Voilà. Madame Becker dit ça dans son introduction.
Exactement. Voilà. Donc, c'était sur les trois critiques un peu de l'abolitionnisme pour comprendre pourquoi après ils veulent proposer.
Dans ce que tu as dit tout à l'heure, là, sur le fait que la criminalisation, c'est-à-dire ceux qui échappent pas au tamis de la justice, ce sont les classes populaires, les classes inférieures au niveau économique. Mmh. Mais je crois que par un pervers retour des choses, en Angleterre notamment, mais je pense qu'en France c'est exactement pareil, tu sais, au 19e siècle, c'est-à-dire que ça a servi à criminaliser par avance la classe des opprimés, mmh. Tu vois, ouais. C'est-à-dire que c'est une espèce de cycle infernal. Mmh.
Double peine.
Voilà.
Ouais, ouais. Et ça se voit à toutes les époques, et encore, quand on parlera des États-Unis, on verra la même chose pour les populations qui ont d'abord subi l'esclavage, ensuite la ségrégation, et maintenant l'incarcération de masse.
Mmh. Ouais. Qui en France, d'ailleurs, ont un peu ce même destin quand quand ils sont issus des empires coloniaux.
Ouais, clairement, il y a une logique postcoloniale aussi.
Et il y a aussi un moment où tu parles de géographie, et où c'est vrai qu'il faut le dire qu'il y a aussi une ségrégation géographique du système pénal, d'un point de vue classe et race, où on va vraiment avoir géographiquement des zones beaucoup plus soumises au système pénal que d'autres, en fait, finalement. Et ce que je trouvais intéressant aussi dans la notion que tu disais sur... bon, je reviens un peu sur la définition, voilà. Où cette définition, elle a un espèce d'effet comment dire, pervers sur la perception des choses à un tel point que on peut assister à certains moments à des espèces de... Bon, j'aime pas le terme de dissonance cognitive parce que c'est très biologisant. Enfin,
de quoi? J'ai pas entendu.
De dissonance cognitive.
D'accord.
Parce que ça me rappelait un ami qui me racontait qu'il était à un repas et il y avait des personnes qui, dans un même repas, pouvaient se plaindre de ce qu'on appelle un rodéo sauvage. Donc, c'est quand des jeunes ils prennent des motos, ils cabrent avec, machin et tout. Et ils pouvaient en même temps dire que c'était un scandale, qu'aujourd'hui la loi n'était plus respectée, qu'il y avait des rodéos sauvages partout. Et trouver que ça, c'est un crime, parce que c'est criminalisé. Aujourd'hui, c'est principalement les jeunes des quartiers populaires racisés qui se font poursuivre par la police pour des rodéos. Et en même temps, eux se dire que quand ils étaient jeunes, ils faisaient exactement la même chose avec des motos, mais que ça, c'était pas un crime, par contre. Et que du coup, la dimension criminelle, pour un acte qui est stricto sensu le même matériellement, elle va s'appliquer qu'à une catégorie de population et pas à une autre. Et c'est vrai que c'est là aussi où on voit à quel point ça... Certes, c'est des savoirs qui sont produits par une institution et qui servent des rapports de pouvoir macro-structurants, disons, mais en fait, c'est aussi des manières de percevoir le monde qui nous imprègnent individuellement et où on a un travail de déconstruction permanent à faire sur notre manière d'appréhender le monde, parce que tant qu'on ne l'a pas conscientisé, et on a besoin des livres, ou en tout cas, peut-être pas forcément des livres, mais de réflexions profondes sur ça pour le conscientiser, et tant qu'on ne l'a pas conscientisé, on peut tomber dans le piège de continuer à voir avec les lunettes de ces institutions et de ces savoirs.
Faire usage de notre intelligence naturelle.
Hmm. Ouais, j'aime pas le terme naturel.
Bah, parce que c'est par opposition à artificiel.
Non, mais excellent. Ce que tu dis, c'est exactement ça, la critique fondamentale, c'est de dire, c'est pour ça que ça sert à rien de parler de crime, ou enfin d'utiliser, comme on dirait, la grammaire criminalisante. Hmm. Parce qu'en fait, précisément, ce qu'on appelle crime, ça sert à criminaliser tout ce qu'on veut. Nils Christie, là, encore une fois, le Norvégien, dit c'est une éponge. Dedans, mais ce qu'on veut.
C'est performatif, c'est-à-dire que ce qu'on nomme criminel transforme la personne en criminel.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a un moment dans le chapitre 1 où tu utilises le terme grammaire. Hmm. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est déridien comme Dick ou.
C'est, en tout cas, c'est métaphorique, c'est simplement de dire c'est avec ça. Enfin, c'est parce qu'il faut bien voir que c'est une culture. Le système pénal, c'est comme le capitalisme ou le néolibéralisme sous sa forme un peu contemporaine. C'est pas juste quelque chose qui est extérieur et qui est. Voilà. C'est quelque chose qui infiltre profondément nos manières d'être et de penser. Et donc, c'est pour ça que la critique abolitionniste, elle doit aussi partir de cette critique, on va dire, épistémologique, donc vraiment sur l'appréhension des situations au quotidien. Parce que c'est là où on réagit de manière punitive ou non déjà.
Bah, sur cette question épistémique, justement, moi je voulais que. Enfin, ça me fait penser à quelque chose qui est évoqué dans le livre, mais je me dis, est-ce qu'on l'évoquerait pas après la deuxième pause musicale ?
Alors ça dépend.
Pour parler d'épistémie et justement faire le lien avec la question du fait qu'aux États-Unis, il y a une articulation entre les questions de l'esclavage, du racisme et des questions carcérales. Ça, je sais que tu voulais en parler plutôt dans une troisième partie, donc est-ce qu'on ferait pas une pause musicale ?
Tout à fait. Si Jean-Michel est prêt, nous pouvons faire une pause musicale et nous allons aborder ensuite.
If being radical is grasping from the road, that's just what I'll do, that's just what I'll do. If being radical is grasping from the road, that's just what I'll do, that's just what I'll do. If being radical is grasping from the road, that's just what I'll do, that's just what I'll do. If being radical is grasping from the road, that's just what I'll do, that's just what I'll do.
They need linen, can't they handkerchiefs, calling them George Curry instead of sending Brett Hankerson to jail, judge, jury. Yeah, the sheriff steady raking in a whale ton of money, but hey, they taking the golden girls up out your library. Feel like y'all ain't fucking hearing me. Have I said it wrong? Defund the CIA and the cops, the Pentagon. I don't give a fuck. Make them raise their money with the telethon. The racism that makes them sick is set in stone, so send them up. Spend $1 billion on keeping up people, houses, showered, and allowance in a pouch, and all our kitchen fridges stocked. And you won't have to spend it, I'm keeping them prison locked. I really don't understand what makes this decision hard.
The idea of abolition's existed a long time, since before the founding fathers penned the documents. Ever since they brought us to this continent, a long line of thinkers wanted it, wanting black off of it. Watching bombs fly for the neighbors, picking cotton fields, and often still we sit on trials. Just giving badges, prisons built all the time. Envision if we prioritize strong ties to the neighborhood so that they're stable to stop crime. That's the mission of abolition. It's been this for a minute. In this business for independence, we finna march right with our allies on the ballot. In the alleys with the power of the people, we will finally see freedom for our country.
And so in honor of Rihanna, cause they shot her in the sleeping. In honor of Eric Garner, he's carotid in the squeeze. And in honor of Rashad, because he'll never push his daughter on the swing again, cause he was in his car and fell asleep. And in honor of Andres Guardado, martyred in the street. We are organizing, agitating, starting to believe it. It might take another winter, another autumn, another spring, but no matter how long it takes, we will abolish the police.
If being radical is grasping from the road, that's just what I'll do, that's just what I'll do. If being radical is grasping from the road,
thank can remember seeing the slogan "Defund the police," which happened exactly when it should have happened, because it meant that we were able to enact a kind of rupture with the past strategies that have always been focused only on prosecuting the individual police officer, find the bad apples and remove them. So I think that now we are confronted with real possibilities of beginning to shrink the power of the police. The whole notion of police abolition has come to the fore. I mean, it's interesting because I don't think we would have ever imagined it to happen this way.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission sur l'abolitionnisme pénal avec Shane Maurice pour son livre coécrit avec Joël Charby et Gwenella Ricordo, Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal chez Lux comme éditeur. Alors, pourquoi cette musique, Shane?
Alors tout à l'heure, on avait Johnny Cash, au début, on va dire, de l'abolitionnisme, au moment du développement. Et là, c'est une musique très contemporaine qui date de, il me semble, 2022, enfin en tout cas, il y a ces dernières années. Et du côté des États-Unis aussi, par une artiste qui s'appelle Linkua Franca, qui est Maria Parker en réalité. Et là, c'est en plein dans le contexte justement de ces mobilisations et de cette mainstreamisation, donc popularisation des mots d'ordre abolitionnistes contre la police, après George Floyd, etc. Et elle était en lien notamment avec Angela Davis, donc elle pour le coup qui est une figure abolitionniste, féministe, dès le début de la période, dès les années 60-70.
Et docteur en philosophie.
Voilà, docteur en philosophie.
Qui ne nuit pas.
Voilà. Et Maria Parker, c'est un peu, je pense qu'elle, enfin, je la connais pas personnellement, mais elle a une image un peu d'Angela Davis d'aujourd'hui. Elle a même été, donc, après ces mouvements-là, elle a eu des fonctions politiques au niveau de la Géorgie, pour essayer d'implémenter tout un tas de politiques sociales et dans un sens un peu abolitionniste. Et voilà, enfin, je trouvais que cette chanson était assez jolie, elle s'appelle Abolition, donc vraiment, c'est sur ce thème-là. Il y a peu de chansons qui sont directement, qui traitent spécifiquement dans les paroles même de l'abolition et de ses raisons. Donc, pour alimenter l'imaginaire abolitionniste, c'était aussi sympa de proposer ça.
Alors, on va reprendre la discussion à propos d'un de vos propos. La liberté, c'est le crime qui contient tous les crimes. Shane.
Ouais. Alors, ça, c'est dans le chapitre 2 qui porte spécifiquement sur la France. Alors, juste pour que les auditeurs et les auditrices aient une idée globale, en gros, le livre, il a 5 chapitres. Donc, le premier, c'est le chapitre, comme je disais, sur les théories, ça, on a déjà un peu vu. Le deuxième, c'est sur l'histoire des mouvements abolitionnistes en France. Troisième, sur l'histoire des mouvements abolitionnistes en Europe, hors la France, en Europe occidentale surtout. Hein. Quatrième, sur l'histoire des mouvements abolitionnistes aux États-Unis. Et le cinquième, c'est un peu comment on peut penser abolitionniste, les circulations qu'il y a eu et les défis jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment sur le chapitre 2, ce qui porte sur la France. Et cette citation mise en exergue, c'est une citation aussi qui est beaucoup revenue dans les mouvements abolitionnistes à partir des années 80 en France. Parce qu'à la base, c'est une citation de 68. Il me semble que, enfin, il y a des gens qui disent que c'est Marquis de Sade qui aurait dit ça au tout début et ça aurait été remis au goût du jour en 68, et là en fait c'est un groupe abolitionniste spécifique en France qui l'utilise dans les années 80 du coup, à plusieurs reprises, Os Cangaceros, qui s'inspire du nom de bandits révolutionnaires un peu brésiliens, je sais plus dans quelle région, enfin je vais pas dire des bêtises, ouais si, dans l'arrière-pays du Minas Gerais. Et donc, ils font un manifeste en 84, si je ne me trompe pas, non, 85. En fait, c'est ce qu'on dit dans le chapitre sur la France, c'est qu'il y a plusieurs vagues de révoltes et de réformes en France, et donc aussi parallèlement de mouvements abolitionnistes qui se développent. La première, c'est celle qu'on a déjà un peu évoquée pour l'Europe en général, c'est le mouvement de développement, c'est les années 60-70. Il y a des énormes mutineries en prison et des révoltes de prisonniers gigantesques, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Et donc après, il y a de la répression et des réformes. La deuxième, c'est les années 80. ça prend une autre forme. Et la troisième, c'est il y a un autre mouvement un peu de réforme sous dans les années 2000. Et donc là, on est dans la deuxième vague un peu de l'abolitionnisme en France, qui fait suite à des groupes. Mais bon, là, on va pas rentrer dans le détail, mais qui ont été plus connus dans la première vague, c'était le groupe d'information sur les prisons, qui était notamment parrainé et co-créé par Foucault, et qui avait suivi, c'était un groupe uniquement de prisonniers, donc le comité d'action des prisonniers, je crois que j'en ai parlé au début de l'émission. Oui. Donc voilà, ça c'est la première vague. Et suit à ça dans les années 80, donc le CAP s'autodissout en 80. Il y a des gens du CAP, donc le comité d'action des prisonniers, qui vont former le CAPJ pour élargir à la justice en général et pas simplement à prison. Et dans les années 80, il y a d'autres associations qu'on décrit dans le livre qui vont naître, notamment l'association syndicale des prisonniers de France, co-créée notamment par Jacques Lesage de La Haye, dont on a parlé tout à l'heure, qui a eu plusieurs émissions ici. Et un autre groupe, et donc plein de journaux, plein d'émissions de radio très différentes, anticarcérales, notamment ici beaucoup sur Radio Libertaire. Et un groupe aussi qui s'appelle Os Cangaceros, comme je l'ai dit, et eux, ils font partie de tout un tas de groupes qui sont dans une stratégie beaucoup plus illégaliste. C'est-à-dire qu'eux, ils vont commettre des sabotages à tout un tas d'endroits pour soutenir les luttes de prisonniers. Parce que, comme je dis, dans les années 80, il y a plein de luttes de prisonniers, notamment au début de la décennie. Et eux, ils sont vraiment actifs, surtout à partir du milieu de la décennie 80. Et donc, encore une fois, cette citation, elle s'inspire d'un de leurs documents qui font circuler et qui tournent beaucoup en 85. Et si vous voulez, je peux en lire un tout petit extrait. Donc la liberté est le crime qui contient tous les crimes. Voilà, donc le tract, je lis le début. Ceux qui nous parlent de surpopulation dans les prisons sont ceux-là même qui les ont remplis à craquer. Et évidemment, ils prennent les choses à l'envers. Pour nous, il ne s'agit pas de construire d'autres prisons, mais de vider celles qui existent déjà. L'exigence des détenus révoltés est claire, la liberté. Ils ne la négocient pas avec l'administration pénitentiaire, ils commencent à la prendre. Monter sur les toits, c'est la liberté arrachée à l'État. Donc, encore une fois, c'est dans un contexte où il y a des mobilisations fortes dans les prisons et eux, ils cherchent à les soutenir par tout un tas d'actions plus ou moins légales. Ils font circuler ce document. Plus tard, ils disent, du coup, la liberté est le crime qui contient tous les crimes. Et c'est contre ce crime-là que le vieux monde se défend. L'État est en train d'éliminer physiquement toute la belle jeunesse qui ne se résigne pas. Cette même jeunesse qui meurt, assassinée par les flics ou des beaufs, ceux que la justice peut coincer, l'État les enterre vivants dans les prisons, le plus longtemps possible, terrorisant du même coup ceux qui ont réussi à rester dehors. Donc là, encore une fois, il faut se remettre aussi dans le contexte des années 80, du milieu des années 80, énormément de crimes racistes. Il y a aussi toute une partie de la jeunesse de l'immigration des années 60. Enfin, il y a les enfants qui se font de plus en plus aussi attrapés par la police, mettre en prison, etc. Et alors, si vous voulez plus de détails sur ce groupe-là, Os Cangaceros, il y a un livre aussi récent qui est sorti en 2023 de... comment il s'appelle déjà qui s'appelle « Du fric où on vous tue ». Alessio, ouais, j'ai perdu le nom, faudrait que je le retrouve.
D'accord.
Mais en tout cas, Alessi del Umbria, donc du fric où on vous tue, 2023. Et il revient sur l'histoire de ce groupe-là et tout ce qui a mené à leurs actions.
D'accord. Voilà. Pour en revenir à l'actualité, il y a des émeutes en Nouvelle-Calédonie et on oublie de dire que le développement de cette île s'est fait autour d'un bagne. Et donc, c'était vraiment le modèle français d'exportation de la prison. Mais c'est la non-résolution de ce problème qui explique en grande partie le conflit à l'heure actuelle. Bah, est-ce que tu peux en dire quelque chose?
Ouais, c'est ce qu'on a appelé dans l'histoire la colonisation pénale.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il y a eu tout un tas dans les différentes vagues de colonisation... il y a eu des pays qui ont pu être colonisés, avoir une colonisation de peuplement sans avoir recours à la main-d'œuvre, entre guillemets, pénale. Et d'autres, comme par exemple là où il y a eu les bagnes la plupart du temps, c'est là où ils avaient du mal à recruter des gens pour aller vivre si loin, dans des conditions climatiques généralement très compliquées.
Et une population très nettement hostile aussi.
Voilà. Ouais,
les Kanaks étaient très résistants.
Voilà, mais la Guyane, pareil.
Exactement.
La Guyane est pareil.
Et donc là-bas, ils ont fait une sorte de colonisation forcée par le bagne, et donc notamment au 19e. Donc la Guyane, ça faisait depuis un moment que il y avait une colonisation pénale. Alors dans mes souvenirs, à un moment, ils arrêtent d'envoyer des gens en Guyane. enfin, en tout cas, d'envoyer énormément de gens, ils développent plutôt la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est au milieu du 19e siècle. Et c'est au même moment où ils prennent des lois sous l'âtre.
Après la Commune.
Oui, après la Commune. Bon, ils vont envoyer plein, notamment de communards et d'autres détenus politiques et même des
dont
gens.
Dont Louise Michel.
Exactement. Mais ils vont aussi envoyer tout un tas de petits récidivistes, en fait, sur des délits vraiment mineurs, mais qui vont répéter une fois, deux fois, trois fois. Et ils vont les envoyer là-bas. Et dire, bon, bah, à la fin de votre peine, vous devez rester, on vous le donne à l'open terre et vous devez rester sur la terre pour la développer. C'était leur moyen, en fait, d'avoir des gens qui partaient là-bas, alors qu'ils n'en avaient pas suffisamment.
Et donc les caldoches.
Voilà. Et ils font ça au moment même, en fait, où l'Angleterre elle-même a arrêté de le faire en Australie parce qu'ils ont vu les conséquences désastreuses que ça avait, cette colonisation pénale. Voilà.
Et la France était en pointe pour ça.
Ouais. Et j'en profite qu'on parle de colonisation pour revenir sur le point épistémique dont je voulais parler tout à l'heure, parce que tu disais que l'abolitionnisme pénal présuppose une rupture épistémique avec les catégories du système pénal, du système judiciaire, du système policier. Et du coup, puisqu'on parle de colonisation, c'est intéressant, parce que la rupture épistémique, c'est finalement une thématique qu'on retrouve chez les auteurs décoloniaux. Et en fait, qu'on peut même retrouver dans la littérature capitaliste, où il s'agit de faire une rupture épistémique avec les catégories du capital.
Ou anti-capitaliste.
Ou anti-capitaliste, oui, pardon. Et donc, du coup, j'en viens à ce que tu disais quand tu disais l'abolitionnisme pénal, c'est une porte d'entrée. Quand on rentre par cette porte d'entrée, on se retrouve avec plein de chemins dans lesquels aller, finalement, parce que puisque la présupposition de l'inutilité pardon, de la prison, c'est que ce sont les structures sociales qui président nos sociétés qui produisent la dite criminalité, délinquance, comme vous voulez. En fait, l'abolitionnisme pousse à aller interroger le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat, etc. Et du coup, j'imagine que ça a forcément eu un impact sur l'abolitionnisme et la manière dont il est pensé, et notamment aussi sur l'agrégation de la question de la police à tout ça. Donc, est-ce que tu peux en dire un mot maintenant ?
Sur le lien avec...
Et comment les questions policières sont aussi venues du fait...
Sur la police en particulier ?
Les deux.
Ou d'abord, ok. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la vague des abolitionnistes des années 70, il y en a beaucoup qui sont plutôt, on va dire, on dirait aujourd'hui dans les termes sosdem, sociodémocrate, plutôt une approche éthique phénoménologique des situations. C'est-à-dire que, comme je disais, simplement voir qu'il y a une critique du système pénal parce qu'en fait, ces catégories ne permettent pas d'analyser les situations et de les régler. C'était ça. Bon, même s'ils avaient un regard, ils savent très bien que le système pénal punit en priorité les pauvres, donc il y avait toute cette approche-là, mais ils ne voyaient pas forcément sortir de l'État, ou pas forcément du capitalisme en général, voilà, ou en tout cas, ce n'est pas un truc qui creusait à fond. Force est de constater, bon, il y en avait quand même dedans qui étaient déjà plutôt révolutionnaires, etc. Bon, mais bon, il y avait plein de groupes notamment, surtout les groupes militants étaient très révolutionnaires. Mais aujourd'hui, Si je caricature, parce qu'encore une fois, comme ça je vous donne une idée très générale. Donc, première vague de développement de l'abolitionnisme qu'on identifie, nous, notamment dans le chapitre 5, c'est donc les années 70 jusqu'au milieu des années 80. Okay ? Deuxième vague, l'abolitionnisme décline en Europe. Il se reconfigure en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'avant il était plutôt dominé, en tout cas dans les écrits, par des mouvements Quaker, vous savez, les sociétés des amis, plutôt religieux, très radicaux aussi. Depuis la lutte contre l'esclavage, ils sont toujours sur toutes les luttes, pacifisme, etc. Et donc, dans cette deuxième vague, c'est moins les Quakers qui sont mis à l'avant que justement les mouvements de libération africaine-américaine et Angela Davis et d'autres qui forment notamment en 97 Critical Resistance.
Mm-hmm. Et ils ont un slogan, c'est Prison Avenue Plantation.
Ouais, alors ça c'est aux États-Unis, c'est un slogan qui revient souvent pour montrer la continuité qu'il peut y avoir entre l'incarcération de masse qui est aux États-Unis depuis les années 80, enfin qui s'est développée depuis les années 80, pour rappeler juste en termes chiffrés. Avant les années 80, les États-Unis n'étaient pas particulièrement punitifs comme ils le sont aujourd'hui. Enfin, c'était pas l'industrie que c'est devenu aujourd'hui. Mais des années 80 aux années 2010, il y a la population carcérale qui a quintuplé. Et donc, c'est devenu le pays qui incarcère le plus au monde, devant tous les pays les plus autocrates et dictatoriaux et tout ce que vous voulez. Donc ça, il faut quand même le noter. Et ça fait une sorte... Souvent, dans la littérature, on parle d'exceptionnalisme états-unien. Parce qu'effectivement, quand on a une réalité qui est telle, et qu'on a autant de personnes qui passent par la prison dans un pays comme celui-ci, c'est gigantesque. Et donc, dans cette incarcération de masse, une des données principales, c'est qu'il y a une surcriminalisation des personnes issues de l'esclavage, ce qu'on appelle les Noirs américains. Et donc, il y en a beaucoup qui analysent ça, en fait, en lien direct avec l'histoire de ces populations depuis l'esclavage. Ensuite,
la ségrégation.
Ségrégation à partir du milieu du 19e Et après, au XXe siècle, enfin dans cette deuxième partie du XXe siècle, l'incarcération de masse. Et par exemple, Michel Alexander a écrit un livre assez connu qui est paru en 2010 en France, en français du coup, en disant justement l'incarcération de masse, pardon, c'est un peu les New Jim Crow, c'est les nouvelles lois Jim Crow, donc les nouvelles lois de ségrégation. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a le slogan qui apparaît souvent, que c'est les nouvelles plantations, les prisons.
Voilà.
Et là, du coup, vient la critique de la police ou l'intégration des...
Bah, la police, du coup, comme on le disait tout à l'heure dans la chaîne pénale, c'est le point d'entrée de toutes ces situations-là, après, dans le système pénal, c'est elle qui surdétermine en amont tout ce qui ira derrière. Bah, en fait, c'est assez marrant de voir que l'abolitionniste n'a pas beaucoup plus prise en compte la police,
tout à fait.
Ouais. Ouais, tu dis bien dans le livre que c'est un truc qui est développé en dernier, quasiment. Quoi,
ouais, c'est à partir des années 2010, surtout.
Ouais. Ouais. Et ça met encore plus de temps à arriver en France. Là, ça commence à l'être, mais bon, c'est... Mais
il faut le remettre en contexte aussi des années 2010, où il y a eu tous les mouvements Black Lives Matter et tous les meurtres médiatisés de jeunes noirs américains. Et là, encore une fois, médiatisés, donc on voit les images aussi. Enfin, c'est ça aussi le truc qui est fort. Et à chaque fois, des réformes. On dit non, ça ira, on met des réformes. Et en plus, sous Barack Obama, puis après, sous Donald Trump. Donc voilà, c'est aussi un moment où du coup ils ont dit non, la police, enfin on veut pas la réforme, on veut justement que ce soit pas ça qu'on mette en avant, qu'on n'investisse pas plus d'argent dedans, qu'on prenne d'autres solutions. À un moment où les États-Unis, ça faisait aussi 40 ans que parallèlement à la montée de l'État pénal, en fait l'État social avait été totalement dégraissé aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est ces deux tendances qui sont concomitantes.
En fait, l'État social a dégraissé du temps de Lyndon Johnson, à partir de Lyndon Johnson et de la guerre du Vietnam.
Ouais.
Et alors, quand on voit que plus le temps passe et plus la police militarise, comment on le perçoit d'un point de vue abolitionnisme ? Est-ce que du coup, ça constitue ce qu'on pourrait dire une régression ou un recul de par rapport à l'effectivité de l'abolition ? On a l'impression que si c'était un point donné, ce serait un point dont on s'éloignerait à mesure que la police se militarise et se...
Ça fait des décennies qu'il y a des tendances de militarisation de la police un peu dans tous les pays. Hein, et je sais pas, par exemple, il y a aussi un point qui est fondamental en termes chronologiques, c'est post-2001, quoi. Post-11 septembre et toute la sécuritarisation des sociétés et du rôle de la police dedans, avec en permanence qu'on brandisse la catégorie du terrorisme. D'ailleurs, voilà...
La lutte contre le terrorisme a été une explication,
il y a des chiffres
une excuse parlent. Pour militariser la police.
Il y a des chiffres qui parlent. 2 mois de grève contre la régularisation des retraites, qui aboutit sur un échec. 1 journée de grève chez les flics, qui aboutit à ce qu'on leur donne tout ce qu'ils demandaient. Bon, il n'y a pas besoin de discuter plus avant.
Sociologiquement, la police, c'est celle qui... On dit les forces de l'ordre. Souvent, on dit sociologiquement, c'est les forces de l'ordre social, celles qui font tenir l'ordre social. Et comme dans un contexte là où on est depuis 2015, sous Macron, d'abord ministre de l'économie, puis après président, à un moment où il y a une contestation sociale assez répandue, qu'est-ce qui fait tenir en dernier recours ? Enfin, il y aura beaucoup de gens qui vont dire, c'est la police. Donc c'est aussi pour ça que les révolutions, la plupart du temps, se font quand l'armée ou les forces de l'ordre, plus généralement, se retournent
contre les tuent.
Et un pays qui cède à sa police est un pays policier. Pour faire très court.
Alors, est-ce qu'il est possible que tu reviennes sur le titre du livre, Brique par brique, mur par mur, qui est une expression qui est développée page 238, pour expliquer pourquoi vous l'avez choisi comme titre
Les sanctions, mon propos.
Pardon ?
Les sanctions.
On en parlera après, si tu peux bien.
Bah, il est 17.
Oui, on a le temps.
Ouais, mais en fait, c'est juste que c'est un slogan qui revient souvent, et ça, c'est, on l'aborde bien dans le chapitre 5, justement, ouais, parce que c'est tout ce qui est commun aux différents mouvements abolitionnistes. Nous, l'intérêt, je pense, de notre livre, c'est d'avoir montré les spécificités, mais aussi les choses qu'il y avait en commun à travers depuis 50 ans dans tous ces mouvements abolitionnistes. Et en l'occurrence, ce slogan, il revient tout le temps. Brique par brique, mur par mur, en gros, on abolira la prison. Donc pour montrer aussi le caractère, encore une fois, peut-être que ça nous paraît utopique aujourd'hui, mais en fait, ça se fait aussi petit à petit. Et donc pour abolir, l'abolition est un horizon, et pour cela, il y a plusieurs stratégies. Et nous, on en décrit trois, justement, dans le chapitre 5. Il y a la stratégie insurrectionnaliste, mais bon, on pourrait mettre ça à la stratégie révolutionnaire plus généralement.
Oui.
Les insurrectionnalistes, les gens qui sont plus gradualistes en mode par des réformes, etc., réformes négatives qui vont dégraisser la bête. Et ensuite, il y a les stratégies autonomes. On va créer des espaces hors du système dès maintenant, etc. Et donc, souvent, ces trois stratégies se combinent. Donc là, c'est un peu ça aussi l'idée de ce slogan, c'est de dire que c'est un processus progressif, mais qu'il faut bien commencer un moment, sinon ça ne se fera jamais.
Alors, François ?
François, c'est pas moi qui ai écrit le bouquin, mais franchement, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes assoiffées de sang et de torture qui te disent « mais alors, vous ne punirez personne ». Que répondre à ça ?
J'inviterai cette personne à dire la foire aux questions qu'on a faites à la fin.
Résultat pour nous.
Non, il faut lui donner envie de lire le
livre. Ouais. Ah oui, ça, c'est la queue à Mickey, ça.
Ah, mais oui, tout à fait. Ouais. Mais toi, tu vas pouvoir le lire, puisqu'on va te le passer, une fois que Shane nous l'aura dédicacé.
mais par exemple, le but de cette foire aux questions, c'est de encore une fois, le livre, c'est une base qu'on pose de discussion pour qu'on puisse faire des différents, enfin, plein de travaux là-dessus, et plein de réflexions. Et la FAQ, c'est pareil. La FAQ, c'est on a pris 6 questions qui se posent tout le temps. Donc, simplement pour les détailler, est-ce que je les ai devant les yeux ?
Il y a pourquoi vouloir abolir le système pénal alors que l'on pourrait l'améliorer par des réformes ?
Première.
Que faire des meurtriers et des personnes dangereuses ?
Deuxième.
Ça, c'est là, je crois que c'est ma préférée d'ailleurs.
Oui, mais je pensais à ça exactement. Oui.
Que faire des violeurs ?
Voilà, troisième.
L'abolition du système pénal ne favoriserait-il pas l'avènement d'une société où régnerait la loi du plus fort ? Contrairement à la société capitaliste où ne règne pas du tout la loi du plus fort.
Ben voilà.
Alors, quelle alternative au système pénal ? Et la dernière, du coup, l'abolitionnisme n'est-il pas irréaliste et utopique ?
Voilà. Donc là, c'est pareil. En fait, notre but dans ce truc-là, c'était pas de rentrer dans le détail comme on a pu faire dans le livre avec plein de données historiques sur les différents mouvements, les stratégies qu'ils ont pu mettre en œuvre, etc., ou les théories abolitionnistes, mais vraiment être synthétisé de manière très condensée des argumentaires qu'on pourrait avoir, par exemple, quand vous avez lu ce truc-là, mais à la fin, bon, il y a beaucoup de données, qu'est-ce que vous pouvez retenir ? Vous allez commencer à parler de ça à vos proches, ils vont dire « Ouais, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait des violeurs et des meurtriers ?» Parce que ça, c'est les premières questions qui reviennent en permanence. Moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, nous trois, Gwenola, ça fait plus de 20 ans, les questions ne sont jamais très originales. Et pareil, les abolitionnistes, depuis 50 ans, ont toujours les mêmes questions face à eux et à elles. Donc là, le but, c'est de donner un condensé rhétorique qu'on pourrait améliorer au fil du temps, qu'on pourrait décliner sous plein de formes. Voilà.
Mais peut-être qu'un premier truc, en tout cas, qu'il faudrait dire à la radio, parce que moi, quand j'ai découvert cette thématique, ça a été quand même le premier truc, je pense, a été important de conscientiser, c'est que les prisons ne sont pas remplies de tueurs et de violeurs et que...
Il y a d'abord une catégorie de gens qui n'ont rien à y faire, les sans-papiers.
Par exemple. Déjà.
Après, d'un point de vue abolitionniste, il n'y a aucune catégorie qui n'a rien à y faire, mais effectivement, les sans-papiers, pas plus que les autres.
Non, parce que moi-même, je m'occupe de les aider à se régulariser. Et quand on les arrête et qu'on les met en prison, ça me met la rage.
Ouais, et ça typiquement, c'est intéressant parce que c'est une des évolutions récentes du mouvement abolitionniste dans tous les pays. C'est que, alors, pour faire court, d'abord, la base de l'abolitionniste, c'est la prison, la lutte. À partir du milieu des années 80, ils élargissent souvent au système pénal. Au gré de réflexion, etc. Et après, à différents systèmes de contrôle depuis une à deux décennies, et notamment des choses qui sont même non pénales, donc y compris par exemple les enfermements administratifs.
Rétention administrative.
Voilà. Et ça, c'est à mettre en lien avec tout ce qu'on a appelé en sociologie le phénomène de crimigration, vous savez, donc criminalisation de la migration de plus en plus forte en fait depuis des décennies.
Je crois que la rétention, elle a été poussée beaucoup plus loin encore récemment
par la prison, par les
démocrates, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre quelqu'un à l'écart avant qu'il ait commis un délit.
Ouais.
Ce qui en France peut aussi se faire après sous la forme de garde à vue aussi, où un policier peut vous mettre
en garde à vue. Ce qui est contraire à tous les principes du droit. Hein.
Ouais, mais à la limite, j'invoquerai pas les principes du droit pour me défendre de la police parce que je trouvais que ce serait un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et il y a une forme d'enfermement qui est aussi évoquée dans le livre et dont j'aimerais que tu me dises un mot, c'est l'enfermement psychiatrique.
Ouais.
Ça, et si possible, l'enfermement des mineurs aussi dans les prisons pour mineurs.
Ouais, ça, pour le coup, l'enfermement psychiatrique, c'était même. enfin cette critique d'enfermement psychiatrique a même préexisté certainement à l'abolitionnisme de la prison, enfin en tant que système, enfin en tant que critique plus systématique, parce que dès les années 50, il y avait des forts mouvements antipsychiatriques dans différents pays, notamment Angleterre, Italie.
Oui, Ronald Lang et Cooper.
Voilà, et en Italie, Basaglia, qui a réussi au début des années 70 à avoir tout un tas de formes de désinstitutionnalisation. Et donc les abolitionnistes se sont beaucoup inspirés d'eux et ont même été en lien avec eux au début des années 70 dans plein de pays, au niveau européen et au niveau international. Et donc, même en France, par exemple, on parle dans le chapitre sur la France, donc du cap de, que je citais tout à l'heure avec Jacques Lesage de La Haye, Serge Livroset, etc. Eux ont fondé aussi un autre mouvement qui s'appelle Marge et qui précisément était censé réunir toutes ces catégories opprimées dans les institutions totales, etc., y compris les gens psychiatrisés ou les handicapés, ou enfin, vous voyez, tout un tas de catégories comme ça.
Que Foucault appelait les anormaux, d'ailleurs.
Ouais, en partie,
du titre de son cours au Collège de France. Mais c'est intéressant.
C'était le sujet de son livre d'avant.
Voilà.
Surveiller et punir.
Mais c'est intéressant parce que
la folie à l'âge classique, c'est ça.
Histoire de folie. Par hasard, si Foucault s'intéresse à la folie, puis après à la question de la prison.
Mais c'est intéressant parce que les belles âmes de ce monde, justement, nous vantent que finalement, envoyer quelqu'un en hôpital psychiatrique par rapport à une prison, ce serait lui faire une fleur presque. Presque, on devrait se féliciter d'enfermer des gens dans des hôpitaux psychiatriques.
Je pense que les staliniens l'avaient mis en pratique.
Alors
ça,
c'est vrai que l'URSS, qui est encore plus intéressant à analyser dans l'institution pénale soviétique, c'est tout ce rapport au travail, mais qui existe aussi évidemment dans nos sociétés. Mais c'est un trope qui a été peut-être poussé à son paroxysme, de la rééducation par le travail. Voilà. Parce qu'on enferme des gens, mais surtout on les force à travailler pour qu'ils se rééduquent par le travail. Donc ça, c'est quand même quelque chose.
J'avais lu un bouquin quand j'étais môme qui s'appelait une nouvelle maladie mentale en URSS, l'insoumission. Et d'ailleurs, Darmanin fait la même chose en traitant de terroristes les écolos, qui sont des gentils étudiants qui n'ont absolument pas envie de piller les épiceries, et qui sont traités comme des criminels.
On revient aux catégories stigmatisantes comme criminels, terroristes. Tout ça, ça sert... C'est des trucs qui ne veulent pas dire grand-chose, si ce n'est permettre derrière des systèmes de contrôle de pouvoir exercer leur action.
En fait, c'est punir, c'est pas autre chose. La prison ne sert à rien.
En fait, un terroriste, c'est quelqu'un qui pense mal.
Est-ce que je pourrais, Mariama, en dernier mot quand même, parler d'une autre institution d'enfermement de masse qui est peut-être encore moins perçue comme une institution d'enfermement que les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les CRA, etc. C'est l'école. C'est quand même le premier endroit où on enferme des enfants à longueur de journée, 8 heures par jour pendant 15 ans ou je ne sais quoi. Je dis ça de manière un peu provocatrice, mais il y a un vrai rapport disciplinaire continu entre l'école, le travail, la prison, l'hôpital.
Mais ça, c'est évident. Et dans les années 70, quand l'abolitionnisme se développe, ces critiques-là, on critique, pour reprendre les termes de Foucault, la société disciplinaire. Donc l'école rentre dedans. Et quand on parlait de Catherine Becker, elle a écrit, c'est pas un hasard si elle écrit des livres contre l'école, obligatoire. Nils Christie, le Norvégien, il a écrit d'abord en 71 un livre sur l'école aussi. Voilà, donc tout ça, ça se répond, bien sûr. Ouais.
Bien. Alors, François, on te laisse la conclusion ?
Non.
D'accord.
Mais à chaque fois, tu me fais ça, le coup de la pomme de terre brûlante, là. Moi, je n'ai absolument pas envie de conclure, si ce n'est que, pour le moment, à part... Mais là, je suis bien planqué derrière mon micro, c'est facile de le dire. Mais à part la Révolution, ce qui est quand même un peu mythique, je ne vois pas de solution à envisager à ce triple handicap de l'enfermement et de la criminalisation. Voilà.
La Révolution. Là, on est reparti pour une heure.
Non, on n'a pas une heure.
Du coup, si François ne veut pas faire la conclusion...
Je t'en prie.
Je suis quand même obligé de dire que la Révolution, c'est un peu l'eschatologie pour les athées de gauche, quoi, finalement.
Ouais. L'eschatologie, tu pourrais employer des termes un petit peu plus simples, quand même, non ?
C'est la fin du monde vue par nos chers amis anarchistes athées.
C'est le but. Voilà. Le but.
Mais
le but linéaire, le truc linéaire vers lequel on s'achemine, c'est ça l'eschatologie.
Mais est-ce que en conclusion, on pourrait pas dire que le propre de la société disciplinaire, et en tout cas, je pense que c'est un point qui m'a marqué chez Foucault, c'est que justement lui il était contre les analyses un petit peu totalisantes hegeliennes où on va voir des grands systèmes qui sont un petit peu omnipotents et de voir qu'à l'inverse en fait la discipline c'est quelque chose qui spontanément dans les sociétés disciplinaires va se développer dans des localités, dans des micro-pouvoirs, dans des rapports inter-individuels, dans des petits groupes. Et qu'en fait, elle se répond comme ça d'institution en institution, de structure sociale en structure sociale.
La comme famille, un virus.
La famille en fait partie, et l'organisation politique aussi.
Ah oui.
Et c'est pour ça, juste pour terminer, pour répondre brièvement à ta question, mais si on lit le livre, normalement, il y a quand même pas mal d'éléments de réponse. Les abolitionnistes n'attendent pas le grand soir précisément. Il faut varier les échelles et les temporalités d'action, c'est-à-dire dès maintenant. Viser effectivement à changer les structures parce qu'en fait juste vouloir régler les conflits mais ne pas régler ce qui est à la base au niveau interpersonnel, d'accord, mais au niveau aussi structurel, par exemple si on prend la question du viol, on peut pas régler la question du viol simplement en prenant en réglant la situation entre deux individus parce qu'il y a des racines sociales profondes pour ce genre de problème là. Donc là je vous renvoie au livre de Ricardo de Guanola de 2019, mais aussi au livre pour voir un peu toutes les échelles d'intervention qu'on pourrait avoir dans un programme, on va dire, entre guillemets abolitionniste.
Merci.
Merci, Chaïne.
Alors, je rappelle le livre, Joël Charby, Chaïne Maurice et Gwenola Ricordo, Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal, avec une préface de Catherine Baker, chez Lux, collection Instinct de liberté. Merci à Jean-Michel et à Ken Dong pour la technique. Merci à François.
Merci,
merci à Samuel et merci à Chaïne Maurice.
Merci à vous pour l'invitation.
Voilà, et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous surtout.
Traversez pas en dehors.
Pour moi, casser les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'ai réussi à nure. Et s'ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry-Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, le rangeur de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais j'excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qu'ils m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour. J'aurais pardonné la puvin. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Hé, 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Joe. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les comptes sur l'envie, ça va.
Faut tous tomber ou se sauver pour la prendre des décisions.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Il alerte à la population et donc...
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu ça que tu es dans la vie, non ? Il sert à rien de tout.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille bulle.
C'est chouette pour une métaphore, non ?
C'est pas une métaphore. C'est peut-être des phrases.
En train de brancher.
Ça, c'est une métaphore.
C'est une manie que tu as de cracher partout comme la race. C'est excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau cop vers le tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Il alerte à la population et tant pis.
Tu vois les dingues, je les toigne.
Je vais faire une ordonnance.
Et une scellée. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, pour le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On m'a coupé, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Je ne vais pas me mettre à les cons sur orbite, ça porte des tours.
Tu marines dans le pinard comme des scuds dans le nez. Ton sang a plus de globules, c'est du 11 degrés 5. Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, Piper.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases.
Où tu sors, où je te sors, mais pour la